Le monde agroalimentaire se montre très résilient face à la situation. Tout n'est pas réglé et on est encore loin de la normale dans le secteur. Mais on a certes évité le pire. J'en ai discuté avec le ministre.
Monsieur André Lamontagne, bonjour.
Bonjour, Monsieur Levac.
Monsieur Lamontagne, le contexte reste difficile en agroalimentaire avec toujours cette pandémie là, qui nous englobe, qui nous entoure, qui nous restreint. Comment vous voyez le contexte, vous, là, en agroalimentaire, justement, là, où on est rendu après 3 mois de confinement? Là?
Bien, écoutez, de façon générale, parce qu'il ne faut pas oublier que dès le départ, là, aussitôt quand ça a commencé la pandémie, bien, les gens doivent continuer à manger. Tout le secteur alimentaire, bioalimentaire a été identifié comme un secteur prioritaire. Puis les activités de toutes les productions ont continué. Où on a eu vraiment des difficultés, c'est tout le choc qu'a entraîné la fermeture des restaurants, une augmentation drastique des ventes d'un commerce au détail, mais en même temps les changements des habitudes de consommation. Ça a été en l'espace de quelques semaines, on a vécu des bouleversements très, très importants, là. Mais 3 mois plus tard, là, si on veut, dans la pandémie, là, il y a beaucoup de secteurs là, où ça s'est placé, puis où les gens ont repris un rythme de vie, là, si on va dire, un peu plus normal.
Là. Reste qu'il y a des secteurs chauds encore. Là. Prenons le secteur des viandes, l'abattage. On est toujours en retard dans les abattages. Il y a toujours au-dessus de 90 000 porcs qui sont en attente. Là. Pensez-vous qu'on va réussir à résorber, là, à reprendre ce retard-là?
Bien, écoutez, ce qui est important de savoir, là, c'est que on est revenu avec les transformateurs à les niveaux d'abattage là qui sont équivalents à ceux qui étaient avant la COVID. Bon, là, on est dans une situation aussi où oui, on a un surplus dans le porc, mais en même temps, le prix du porc, le prix de la découpe est très bon. Alors, les gens ont une bonne rémunération, si on veut, là, pour cet excédent de poids là pour les porcs avec l'accumulation, si on veut là. Mais le scénario, là, s'il n'y arrivait pas d'autres problèmes de virus au sein des usines et tout ça, là, bien, on a un scénario où on voit semaine après semaine, là, si on enlève les 2 semaines de fête de juin et du 1er juillet, là, où on va avoir une augmentation encore, là, mais on est sur une pente descendante là, que à terme devrait nous amener là, vers une résolution de cette situation-là. Là.
Donc, on pourrait en arriver, là, si les conditions sont bonnes, on pourrait en arriver à ne pas euthanasier des animaux, là.
Ben c'est certainement ça. Depuis, la possibilité d'euthanasier, c'est dans les 2 ou 3 premières semaines, on a vécu 2 gros chocs. On a vécu l'implantation de mesures non adaptées dans les usines au niveau de la distanciation et tout ça, qui est venu réduire de façon importante la capacité d'abattage des usines. Et on a vécu la fermeture de l'usine de Yamachiche, de Limel, qui pendant 2 semaines, là, c'est une usine qui abat, je pense, c'est 34 000 porcs par semaine, là. Alors, ce choc-là, écoutez, si ça avait continué sur cette lancée-là, on s'en allait direct là, vers une obligation d'euthanasie d'animaux. Mais depuis ce temps-là, les protocoles qui ont été mis en place dans les usines sont très adaptés à la réalité. Les propriétaires d'usines ont fait preuve d'un grand, grand professionnalisme, de sorte qu'il n'y a pas eu de grande éclosion. Quand il y en a, c'est très contrôlé. Alors, la capacité d'abattage est revenue. Et puis, on espère bien là, qu'une fois qu'on est sur cette lancée-là, là, ça reste quand même encore précaire, on s'entend là-dessus. Il ne faudrait pas qu'il y ait une usine qui ferme demain matin pendant 2 semaines, là, parce que ça serait une grosse problématique. Mais si la tendance se maintient, là, puis tout le monde y met du sien, parce que tu sais, la filière là, elle doit avoir cette volonté à tous les jours de se lever, puis d'avoir comme priorité de réduire le nombre de porcs en abattage. Parce que moi, ce que je leur dis, c'est qu'on peut aujourd'hui être confortable en se disant, mais écoute, on le réduit tranquillement et tout ça, puis les gens sont quand même rémunérés pour les excédents de poids. Mais s'il fallait qu'on ait un avarie ou une situation difficile, il faut qu'on ait pu se développer de la marge de manœuvre. Alors, on aurait intérêt à chaque jour, dans la filière, autant les transformateurs que les producteurs, d'être ensemble, main dans la main, puis dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le maximum pour réduire le plus rapidement possible toute cette question-là des porcs en attente? Alors, moi, c'est certain que je fais le souhait que c'est comment il procède à tous les matins, là, parce que tant qu'on n'a pas d'autres difficultés, c'est sûr, c'est une situation qui est gérable, puis ça s'en va dans la bonne direction. Mais moi, j'ai comme un principe de précaution qui dit on devrait s'atteler à chercher à développer une marge de manœuvre le plus rapidement possible.
Ouais, autrement dit, se garder un peu plus ou prévoir un peu plus de capacité d'abattage globalement au Québec pour des situations, faire face à des situations comme celle-là. Là.
Oui, on a vu là, dans les dernières semaines, on a vu là, des ententes qui ont été faites pour permettre là, qu'il y ait des abattages le samedi, un abattage un lundi qui avait une journée fériée. Ben si tous les abattoirs là, pouvaient mettre la main à la pâte, puis de concert avec les producteurs, tous ensemble, puis convenir que la priorité vraiment, là, c'est de se développer cette marge de manœuvre-là, là, ben ça nous éloignerait encore plus rapidement, si on veut, d'un scénario qui pourrait éventuellement pourrait être difficile pour la filière. Là.
Dans le secteur de la volaille, on a un problème peut-être un peu semblable, quoique le contexte diffère aussi un peu. On a commencé à le faire, là, réduire un peu la production parce que du fait que les rôtisseries, tout le secteur de la restauration est fermé pour l'instant, encore ou en tout cas partiellement fermé, il y a surplus d'animaux, comme on dit là.
Ben écoutez, la filière de la volaille, honnêtement, a été très, très, très proactive là. Rapidement, quand ils ont pris acte de d'où ça se dirigeait au point de vue de la demande dans le marché, là, ben, les producteurs et puis les transformateurs se sont assis puis ont convenu d'un scénario, là, puis les producteurs ont accepté, là, de réduire leur production à hauteur de presque 15 % là, pour une période, puis ils ont accepté pour une deuxième période. Alors ça a fait qu'on a eu, si on veut, à éliminer des œufs, puis euthanasier des poussins en début de filière, si on veut, là, mais qu'on n'a pas eu de scénario où on a eu à abattre là, des milliers d'oiseaux à chaque semaine. Puis on peut dire que la filière de la volaille là, est bien à l'affût, puis elle a bien, jusqu'à maintenant, elle a bien géré cette situation-là. Là. Ils ont pris les décisions qui montraient qu'il y avait du leadership dans la filière, là.
Autre secteur où on a toujours des problèmes, même si plusieurs se sont résorbés, là, secteur maraîcher, Il y a des fermes qui n'ont pas reçu le nombre souhaité de travailleurs, le nombre de travailleurs attendus. Ça perturbe les récoltes et tout ça. Le bilan que vous en faites de ça, est-ce qu'on va quand même se tirer avec une saison raisonnable, si on veut, dans le secteur maraîcher, les laitues, les fraises qui commencent, là, etc.?
Écoutez, dans le secteur maraîcher, si on se reporte là, il y a deux mois, puis qu'on regardait ce qui s'en venait, bien écoutez, les frontières étaient fermées, la frontière canadienne était fermée, la frontière du Guatemala était fermée, le Mexique, et ce qu'on voyait là, c'est qu'il y a 11 000 travailleurs étrangers qui étaient attendus d'avril à juillet, si on veut, là. Et puis les gens, on s'imaginait le pire des scénarios. Fait que dans ces situations-là, bien, on peut justement convenir des scénarios les plus catastrophiques. Puis la réalité, là, ce qu'on a vécu, finalement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec le gouvernement fédéral, sont intervenus avec le Guatemala, le Mexique. Il y a eu beaucoup de discussions, là, les acteurs, si on veut, les principaux intervenants qui font affaire avec les travailleurs étrangers. On a mis sur pied une filière aussi au MAPAC où tous les gens se concertent tout le temps. Mais il reste qu'en bout de ligne, on est arrivé au mois d'avril, fin avril, il y avait 85 % des travailleurs qui normalement auraient dû arriver. Qui était arrivé. Alors déjà, le scénario était plus positif. Où on en est maintenant, là, à la fin mai, début juin, et on est encore dans les mêmes eaux. Alors, il manque un pourcentage des travailleurs étrangers temporaires qu'on attendait, mais le nombre est beaucoup moins, on pourrait dire, considérable que ce qui pourrait être anticipé. Parallèlement à ça, là, avec l'UPA et avec Agri-Carrière, on a lancé le programme pour inviter les Québécois au champ au mois d'avril. Puis on s'aperçoit là, que ce programme-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont manifesté d'intérêt. Puis en même temps, ben les producteurs, pour aller chercher des travailleurs, ben d'abord, c'est en remplacement de travailleurs étrangers temporaires. Alors, il faut avoir la confirmation que leurs travailleurs étrangers ne viendront pas parce qu'ils ont des contrats avec ces gens-là. Mais ce qu'on a vu depuis quelques temps, là, c'est une accélération de l'enregistrement des entreprises auprès de ce programme-là, mais aussi de la participation des travailleurs. Fait qu'aujourd'hui, là, on a à peu près 800 travailleurs à signer là, travail. On est rendu, on a, je pense, tout près de 650 employeurs qui sont inscrits au programme. Puis ce qu'on voit, là, c'est que pendant le mois de juin, début du mois de juillet, là, c'est là que les gens devraient faire le plein là, dans les travailleurs québécois. Alors encore là, on peut regarder ça d'un bon angle, mais notre portrait final, on va le voir là, au fur et à mesure que l'été va avancer. Là. Les derniers rapports qu'on avait au point de vue de l'ensemencement des champs, là, c'est qu'il y avait peut-être une diminution de l'ensemencement. Là. De mémoire, M. Levesque, je pense que c'est aux alentours de 15 % peut-être, là, 15 à 20 % de certains producteurs qui avaient décidé de moins ensemencer. Il y a des productions qui ont été favorisées plus que d'autres parce qu'il y avait moins besoin de main-d'œuvre. Alors, on va voir, tout ça va atterrir pendant l'été, mais certain que tout ce qui va être produit sur le sol québécois là, va trouver preneur à des très, très bonnes conditions, parce que si la demande va être là, alors l'offre, si l'offre n'est pas tout à fait ajustée, ben ça va certainement avoir un impact positif, par contre, au niveau des prix et des producteurs. Alors, on va voir avec le temps là, où tout ça va atterrir. Là.
Pour terminer sur cette question de la main-d'œuvre, il y a quand même plusieurs producteurs qui se montrent déçus là, face à la capacité, je dirais, là, des équipes québécoises de remplacer vraiment les travailleurs étrangers temporaires. Là. Et ça, c'est un constat qu'on pouvait faire même avant la pandémie. Là. Il a toujours été difficile depuis des années et des années d'avoir de la main-d'œuvre québécoise locale dans les champs, sur les fermes, etc. Ça veut dire en même temps que c'est absolument essentiel d'avoir de la main-d'œuvre étrangère.
Bien, écoutez, c'est certain, parce que ça le démontre, c'est depuis des années et des années, puis c'est pas propre au Québec, là, partout au Canada, c'est des provinces comme l'Ontario, provinces comme la Colombie-Britannique, c'est des provinces maritimes comptent sur un fort contingent de travailleurs étrangers temporaires. Mais je vous dirais que dans le cas qui nous concerne cette année, avec l'appel aux champs qui a été fait, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont manifesté des intentions. Moi, encore cette semaine, parce que je me fais faire un peu un rapport à toutes les semaines où ça va avec ça, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont manifesté l'intérêt. C'est des gens qui ont déjà une expérience agricole, qui ont déjà été associés avec le milieu agricole, qui ont décidé de se réinvestir et d'aller redonner un coup de main. Fait que cette année, je vous dirais, certainement dans l'attitude des gens, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont portées volontaires et qui veulent se présenter pour aller travailler, qui ont certainement une attitude très positive, très solidaire du milieu agricole. Ça peut certainement faire une différence. L'accueil aussi qu'on leur fait, comment on les encadre, comment on est mentor un peu, parce qu'il faut se rappeler, Monsieur Levac, je peux comprendre que des gens peuvent dire, un tel travailleur n'est pas aussi bon qu'un autre travailleur. Mais on est parti d'une perspective où, un, ça serait une catastrophe puis qu'il n'y aurait pas de travailleurs étrangers temporaires, où on a quand même un fort contingent de travailleurs étrangers temporaires, on a potentiellement accès à un contingent très important de travailleurs québécois, que pour la plupart ont certainement une très bonne motivation. Alors, ça fait probablement longtemps qu'on n'a pas eu des planètes comme ça d'alignées pour le milieu agricole. Alors, on a deux façons de voir ça. On peut dire, je suis fâché que ça ne soit pas comme l'année passée, comme l'année d'avant. Où on peut dire, il y a deux mois, quand je regardais par en avant, là, c'était vraiment la catastrophe. Bien là, c'est moins la catastrophe, mais en plus de ça, j'ai des milliers de Québécois qui sont prêts à venir nous aider. Comment je peux les aider à nous aider? Il y a ça aussi qu'on peut regarder, M. Levac, là, parce que il y a quand même des conditions assez exceptionnelles qui ont réussi à être mises en place pour venir aider les maraîchers, les producteurs à traverser cette période-là qui est tout à fait exceptionnelle, mais pas dans le bon sens. Là, fait que c'est ça. On peut voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Là.
Ici Lionel Levac. Dans la deuxième partie de l'entretien avec le ministre André Lamontagne, que je vous présenterai dans mon prochain blog, il sera cette fois surtout question de relance et de stimulation du secteur agroalimentaire. Au revoir.